voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Johanna Bedeau rencontre Daniel Zaguri. Ce soir, l'expertise de l'horreur.
C'est tout au long de votre parcours de psychiatre à l'hôpital ou en prison que vous avez exploré et analysé les actes médico-légaux des malades mentaux psychotiques et ceux présentant des troubles graves de la personnalité. Chef de service du centre psychiatrique du Bois de Bondy depuis 1997, ce sont toujours les patients qui vous animent et vous passionnent. Pour mieux saisir le fonctionnement de certains hommes qui commettent des actes atroces, vous êtes aussi, Daniel Zaguri, expert pour les tribunaux, ce qui vous amène à côtoyer le plus effroyable de l'humanité. Bonsoir, Daniel Zaguri.
Bonsoir.
Expert de l'horreur, comme se sont amusés à vous surnommer vos enfants, qu'est-ce qui vous prédit à le devenir ?
Absolument rien. C'est les hasards de la vie, puisque à la fin de mon internat, j'ai travaillé en prison, ça m'a intéressé. Et puis, il fallait que je trouve un appoint financier pour payer ma psychanalyse. Et puis, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu.
Comment vous retrouvez-vous à faire votre première expertise, Daniel Zaguri ? Qui vous y pousse ? Votre femme d'abord, qui était juge d'instruction ?
Alors oui, mais quand ma femme me disait « tu devrais faire des expertises » et me parlait de ses experts préférés, moi j'étais tout à fait hostile. J'avais d'autres intérêts dans la vie à ce moment-là.
Quelles étaient les images que vous rapportiez chez vous le soir de ces premières expertises ? Des images d'hommes ?
Oui, il y a toujours, même dans l'expertise la plus banale, il y a toujours un petit moment, il y a toujours quelque chose, c'est un petit détail, qui d'ailleurs, dans certaines expertises très pénibles, peut être un détail horrible. Vous m'interrogez quand même sur ma capacité ou non à séparer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Oui, quand même. Vous savez, c'est un fantasme qu'ont beaucoup de personnes de croire qu'on est psychiatre à plein temps. Quand vous allez dans un dîner, on suspecte assez facilement le psychiatre de vous observer et puis d'essayer de repérer vos failles. Non, bien entendu, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr que ça poursuit son chemin, mais je suis capable quand même de tourner momentanément la page.
La justice fait appel à vous, Daniel Zaguri, pour mieux percevoir le fonctionnement mental des criminels et comprendre si au moment des faits, leur discernement était altéré ou aboli. Ça donne tout d'un coup une sorte de stature à votre fonction quand même d'expert. J'imagine pour certains, de la toute-puissance.
En vous écoutant, j'ai envie de vous dire, vous savez, l'expertise, c'est minable en France, c'est être très peu payé, c'est faire la queue dans le froid, comme je l'ai fait samedi matin, parce que c'était les parloirs famille, donc j'ai attendu une demi-heure dehors dans le froid, j'ai ensuite vu la personne dans des conditions très médiocres, donc l'expertise en France, c'est tout sauf la toute-puissance. Alors, je dirais qu'il y a l'expertise ambitieuse, et puis il y a l'expertise tout venant. L'expertise tout venant, c'est de dire si oui ou non il y a de la pathologie, et notamment au moment des faits, évidemment, et si elle est suffisante pour qu'on considère que le discernement de la personne a été aboli. L'expertise ambitieuse, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'éclairer le tribunal ou la cour d'assises sur des aspects plus complexes de la personnalité du sujet.
Vous avez été un des experts, Daniel Zaguri, dans l'affaire des reclus de Montflanquin, une affaire qui a complètement médusé la France. Comment 11 membres d'une famille aisée ont pu perdre toute leur fortune familiale, vivre reclus comme ça pendant une dizaine d'années, tout ça à la demande d'un seul homme? Quelle est cette histoire, Daniel Zaguri, qui débute en 2001?
Alors ça, c'est effectivement, probablement, une des expertises qui m'a le plus marqué. J'ai eu l'occasion dans ma vie d'examiner des escrocs, des médecins qui abusaient de leurs patients. Mais c'est vrai que l'affaire des reclus de Montflanquin est tout à fait étonnante. Donc au départ, j'imaginais que j'allais rencontrer des gens particulièrement naïfs, un peu idiot, une vieille noblesse dégénérée qui s'était fait rouler dans la farine. En vérité, j'ai vu deux générations, des parents très différents les uns des autres, des enfants, des cousins, cousines, dans une gamme diversifiée, en dehors d'une affection psychiatrique caractérisée pour tous. Et il m'a semblé que la façon la plus claire de rendre compte de ce qui s'était produit, c'était de parler d'abus de transfert. Le transfert, c'est quoi ? Le transfert, c'est la projection par la personne sur son psychanalyste, comme d'écran, des projections de ce qu'il a lui-même éprouvé dans sa petite enfance, toute petite enfance, à l'égard de personnages tout-puissants, qui étaient les personnages parentaux, auxquels on devait la vie et la survie. Donc des affects très forts, au départ essentiellement positifs et idéalisants. Et à chaque fois qu'on me pose la question de savoir comment c'est possible, j'essaie de répondre de la manière suivante. Je dis, essayez d'imaginer que le psychanalyste que vous êtes allé voir dans un moment de détresse utilise cette idéalisation, ces mouvements affectifs profonds, non pour vous aider à aller mieux, non pour vous aider à conquérir votre autonomie, votre indépendance, votre capacité à parler en première personne, mais à l'inverse, l'utilise en retournant les confidences que vous lui avez faites, à votre détriment, dans un objectif de soumission, d'exploitation sexuelle ou de pouvoir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec chacun des membres de cette famille, étant bien entendu que les enfants y allaient plus volontiers que les parents étaient eux-mêmes soumis, et étant bien entendu qu'il y avait une dimension familiale, alors là, de transfert familial dans cette affaire. Et que le gourou, je ne l'ai pas examiné, mais bon, il m'aurait dit, comme toujours, un certain nombre de choses qu'il ne m'aurait pas beaucoup renseigné. Et moi, je suis frappé de quelque chose que j'ai constamment observé, c'est-à-dire que ces personnes sont d'une habileté incroyable à percevoir les failles de chacun, à savoir comment mieux exploiter l'autre, mais qu'en même temps, lorsqu'ils sont appréhendés, lorsqu'on les voit en prison, c'est comme un poisson hors du bocal, il frétille, mais on se dit mais où est passé l'escroc génial, où est passé le prestidigitateur, où est passé celui qui arrivait à ce point à exploiter ces personnes. Voilà, en dehors du milieu, en dehors du bain qui le portait, il n'est plus rien. Je n'aime pas le mot de manipulatoire, hein, mais là, en l'occurrence, quand même, on peut l'employer. Par exemple, il avait envoyé l'un des fils aux États-Unis. Je crois que c'était quelques jours avant le 11 septembre. Et il lui a simplement dit « Tu as vu la date ?» Ça voulait dire « J'étais au courant des attentats. Je t'ai sauvé la vie. Je suis en connexion avec les puissances tutélaires qui te protège, et le jour où je déciderai de ne plus te protéger, tu seras voué à la mort. » C'est-à-dire que cet être tout-puissant, vous lui devez tout, vous lui devez la vie. Et donc, cette famille, effectivement, a été asservie, totalement asservie, d'étape en étape, pendant 10 ans. Donc on peut opposer, point par point, toutes les règles d'une cure psychanalytique normalement menée pour voir comment ces sujets subvertissent totalement la relation d'un psychisme à un autre psychisme pour mieux faire de vous leur esclave, soit à des fins sexuelles, ce qui n'est pas le cas ici, soit à des fins financières, ce qui est le cas ici, soit à des fins de pouvoir, ce qui est aussi le cas.
Qu'est-ce qu'on appelle, Daniel Zaguri, un serial killer?
Alors, il faut évidemment des définitions, et la définition de Ressler, la définition du FBI, c'est 3 meurtres, 3 homicides, ou plus de 3 homicides pratiqués à distance les uns des autres. Vous avez des sujets qui sont essentiellement psychopathes, comme Allègre ou comme Guy Georges, des sujets qui sont essentiellement pervers, comme Fourniret, Vous avez des personnes qui sont essentiellement des malades mentaux. Vous avez des gens qui ont un QI supérieur, comme on dirait, mais qui sont loin d'être la majorité. Vous avez des personnes qui s'en prennent à des enfants, d'autres à des femmes adultes, d'autres à des hommes. Vous avez donc une très grande diversité des personnalités. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être là aussi un peu circonspect sur la possibilité de donner une représentation comme ça, très unitaire, du phénomène de tueur en série. Ce qui fait la singularité de ces sujets, c'est qu'ils tuent une première fois. Et la première fois, ils sont comme tous les criminels, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune expérience. Mais leur singularité à eux, c'est qu'ils vont recommencer encore et encore à la suite de ce qui a été une expérience criminelle inaugurale que j'appelle un éprouvé subjugant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le déroulement de l'homicide qui fait qu'ils vont avoir tendance à recommencer et recommencer et recommencer encore. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir des personnes qui sont à milieu de la représentation hollywoodienne. Bon, on les dit très intelligents, c'est pas vrai du tout, pour la majorité des cas. On pense qu'ils sont dans un défi aux médias, mais c'est pas vrai du tout. Ils se planquent, Guy Georges disait, quand on parlait de moi, je me planquais. Ils ont au contraire une peur atroce. Chanal a préféré se tuer au premier jour de son procès plutôt que de voir sa faille révélée au public.
Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous qui fait tout basculer ?
Là, vous posez une question qui est essentielle, qui est celle de la rencontre. Or, lorsque je fais une expertise, il peut arriver, si c'est une affaire qui a été médiatisée, que j'en ai une représentation avant la rencontre. Et de façon absolument systématique, cette première idée est contrariée. Et contrarié, ce n'est jamais ce à quoi je m'attendais. Tout simplement parce que vous lisez dans la presse un crime épouvantable et vous faites une représentation du criminel qui est homogène à son crime. Et le jour où vous arrivez en prison, parfois en vous disant « mais j'arriverai jamais celui-là à l'écouter, c'est tellement atroce, c'est horrible, bon, comment je vais faire ?» Eh ben, tout d'un coup, vous tombez sur quelqu'un, et puis voilà, une relation s'engage, quelle qu'elle soit. Et effectivement, pour m'interroger sur Guy Georges, j'avais été frappé par le fait qu'il m'avait accueilli très affable, très aimable, m'invitant à m'asseoir, et qu'il y a eu dans nos échanges des moments assez chaleureux. Alors ça peut être choquant, mais si moi, psychiatre mandaté par la société pour rendre compte de la pathologie ou du fonctionnement psychique de quelqu'un, j'arrive bardé d'a priori, je vais faire une expertise qui n'aura aucun intérêt. Donc, avec Guy Georges, il y a eu des moments de rapprochement, de sympathie, d'antipathie, des moments d'antipathie, des moments de dégoût, des moments de rejet, des moments où j'arrivais de brouillage de la pensée, des moments d'horreur, et tout ça mélangé fait que je vais essayer ensuite de rendre compte de ce que j'ai éprouvé. Car bien entendu, ce que j'ai éprouvé fait partie du matériel clinique. Je n'analyse pas seulement quelque chose qui aurait été capté par un regard objectivant, j'analyse aussi ce que ça a induit en moi-même et comment j'ai pu l'éprouver, qu'est-ce que je peux en faire. Et alors il se trouve que Guy Georges, dans les premières années de sa vie, s'appelait Rampillon, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que de lui faire changer de nom, je ne sais plus, à 5 ans ou à 6 ans. Donc moi, très naïvement, je lui ai dit Rampillon comme le joueur de Nantes. Et donc, il a dit « Ah, vous vous intéressez au foot ?» Et on s'est mis à parler football. Et effectivement, il y a des moments comme ça, dans l'expertise, où on se met à avoir un contact. Là, en l'occurrence, on aurait pu être au Café du Commerce et ça se serait passé de la même façon. Jusqu'à ce que je me dise oulala, tu es avec un tueur en série, tu n'es peut-être pas là pour parler football. Et ça, on pourrait multiplier les exemples. Alors, on a souvent l'idée que l'expert s'est fait manipuler, comme s'il fallait avoir quelqu'un qui on ne l'a fait pas. Mais non, je ne demande qu'à être manipulé. Mais je suis là pour ça, je suis là pour être manipulé, je suis là pour entrer en communication avec le psychisme de l'autre, je suis là pour aller là où il veut me faire aller. Ce qui est grave, c'est pas d'être manipulé, ce qui est grave, c'est de ne pas s'en apercevoir à un moment donné. Donc si vous voulez, tant que nous avons parlé de choses qui ne fâchent pas, son parcours, pour ce qui concerne les vols, il n'y avait aucune difficulté à le dire, J'ai toujours manqué de quelque chose, m'a-t-il dit. J'ai toujours eu besoin de m'approprier ce que les autres avaient et que moi je n'avais pas. Quand il s'agissait d'aborder les faits, il était beaucoup plus, je dirais, elliptique. Au fond, il n'y a que Fourniret qui paraissait très à l'aise avec le récit de ses crimes. Parce que lui, il avait mis 40 ans pour s'approprier sa propre perversion.
Quand vous dites très à l'aise, sentir presque de la jubilation ?
Oui, Fourniret était extrêmement pervers. Autant, si vous voulez, quelqu'un comme Allègre ou comme Guy Georges était très gêné pour aborder des faits que eux-mêmes ne comprenaient pas. Guy Georges a eu cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait », ce qui me paraît d'une clarté limpide. Fourniret, c'est tout le contraire. Fourniret, c'est quelqu'un qui n'a pas été appréhendé pendant très longtemps et qui a eu donc l'occasion de peaufiner ses modes opératoires et d'en tirer jouissance. Donc il y avait à la fois une jubilation d'y revenir et une jubilation de voir à quel point j'étais désemparé face à sa crudité, bien sûr.
Que représente le tueur en série pour la société ?
Alors, on lui attribue une toute puissance qui est malheureusement quelque chose de l'ordre de l'identification à la propre toute puissance du criminel. C'est un leurre total. Cette toute puissance, elle est adossée sur le néant, comme disait Claude Ballier. Moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, d'abord, c'est la définition même de tueur en série. C'est-à-dire, quand Ressler trouve le mot « serial killer », il pense au serial de son enfance, quand il allait voir des films le samedi soir et qu'il n'attendait que le samedi suivant pour voir la suite, etc. etc. Enfin, c'est une expérience que nous avons tous, évidemment. Donc, au fond, la définition du serial killer, elle est cinématographique dès le départ. Et moi, je crois que le crime est irreprésentable. Il est irreprésentable pour le sujet lui-même, il est irreprésentable psychiquement. Il est quelque chose qui vient répondre à un traumatisme désorganisateur à un moment où le psychisme n'était pas en état de se le représenter. Il est, si vous voulez, un agir sur la scène du monde, mais qui ne peut pas être scénarisé psychiquement. Et cette tâche aveugle, cet irreprésentable, au fond, va appeler de la part de nous toute une série de fantasmagories qui vont venir en quelque sorte en lieu et place de ce scotome, de cette tache noire. Donc il y a mal donne total. Ce sont des pauvres types qui ont été traumatisés dans leur petite enfance, dans leur toute petite enfance, et qui commettent des actes que eux-mêmes ne comprennent pas et sur lesquels nous projetons tout un tas de choses.
Pendant vos expertises, j'imagine, Daniel Jaguerie, vous laissez de côté votre morale. Vous devez toujours regarder ces personnes sans haine. Est-ce que c'est toujours possible ?
Non, ça n'est pas toujours possible. Mais encore une fois, ça c'est mon métier. Voyez par exemple, j'expertise un jeune terroriste qui a poignardé un juif parce qu'il était juif. Et je me dis, je vais avoir du mal. Mais non. Oui et non, bien sûr, je vais pas... Mais il s'instaure une relation. Et je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la compréhension des mouvements qui ont animé ce jeune garçon. Bien sûr qu'il m'arrive d'éprouver des dégoûts Bien sûr, mais encore une fois, il faut que j'en fasse quelque chose. Et ce qui est le plus pénible pour moi, c'est évidemment pas d'éprouver du dégoût. Ce qui est le plus pénible pour moi, c'est d'éprouver des mouvements contraires, évidemment. Mais il y a un temps pour tout, et il y a un certain clivage fonctionnel qui me protège et qui fait que je vais quand même pouvoir y aller, tout en n'étant pas trop atteint par ce que je vais engager de moi dans la relation.
Qu'est-ce qui, chez Guy Georges, Patrice Allègre, Michel Fourniret, a constitué une nécessité criminelle ?
Alors, on ne peut pas tous les mélanger. Ça n'est pas toujours la même chose. La logique est la suivante. Là où j'ai été totalement désemparé, en état de déréliction, de souffrance absolue, là où j'ai été une petite chose dominée, écrasée, je vais être dans la position inverse et cette fois-là en tirer jouissance. Et donc, je ne suis plus impuissant, je suis tout puissant, je ne suis plus passif, je suis actif, je ne suis plus effrayé par une imago féminine terrifiante et écrasante, c'est moi, au contraire, qui vais jouir de sa déroute. C'est ça, fondamentalement, qui est à l'origine de ces actes, qui, encore une fois, ne sont pas pensés, mais qui sont, dans des moments de déstabilisation, la façon qu'ils ont de survivre, non seulement en reproduisant le traumatisme à l'envers, mais de surcroît, en tirant jouissance.
Tout ça avec des carences communes quand même, même si on ne peut pas tous les mettre pareil dans le même panier, il y a quand même des carences communes.
Alors ce qui effectivement caractérise l'immense majorité de ces biographies, c'est le mot carence. Ces carences affectives, parfois même ça va jusqu'à des sévices. Moi j'ai été très frappé de quelque chose qui est le maintien de l'idéalisation maternelle, y compris quand ils avaient été l'objet d'abus, voire de torture par leur mère. Et c'est presque une règle, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement toujours soit une idéalisation de l'image maternelle, soit une neutralisation de l'image maternelle, mais ce sont d'autres femmes qui vont payer pour elles. Je n'ai jamais rencontré de tueur en série qui était capable d'éprouver du ressentiment, de la rancœur, voire de la haine à l'égard de l'image maternelle. Et quand je l'ai rencontré, ça a été chez des sujets qui avaient fait un travail thérapeutique et qui étaient en quelque sorte capables d'éprouver et de contenir de tels affects qui les auraient anéantis auparavant.
Est-ce que vous avez déjà rencontré un homme qui est tué ou qui est violé, qui a eu une enfance heureuse, avec la subjectivité bien sûr que ça implique ?
Les seules exceptions à l'histoire carencée, ce sont des sujets qui présente une psychose sous-jacente qui est défendue par une extrême perversité. Et ça, dans le champ des psychoses, on n'est plus dans le champ de la carence. Et il m'est arrivé, je ne citerai pas les affaires parce que certaines sont connues, il m'est arrivé 3 ou 4 fois de voir des tableaux de perversité absolument inouïe, sans aucune manifestation psychotique, mais qui, une fois le sujet appréhendé après son crime, évoluait vers des tableaux de psychose. Donc on peut penser assez logiquement que c'était des défenses extrêmement puissantes contre des dangers dissociatifs sous-jacents. Fourniret, par exemple, avait fait une expérience délirante primaire à l'âge de 12 ans. Il avait vu la Sainte Vierge. Et puis, il était dans un carrefour à évolution aléatoire. Et donc, il a pris la route de la perversion au lieu de prendre celle de la schizophrénie. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais contrairement à ce qui est dit tout le temps, savoir que la perversion, c'est la jouissance à faire souffrir l'autre, je pense que la jouissance de la grande majorité de ces sujets, c'est essentiellement d'être en quelque sorte au-dessus de la condition humaine et d'être en quelque sorte insensible à la souffrance de l'autre. C'est pas de faire souffrir l'autre, c'est d'être insensible à la souffrance de l'autre. J'échappe à la condition humaine. J'échappe à ce qui, pour la plupart d'entre nous, constitue une source de souffrance.
Comment ça se passe concrètement, une expertise ?
je pense que je passe par tous les états. Je peux m'ennuyer, je peux être effrayé, je peux avoir le sentiment de comprendre, je peux être insatisfait de ce que j'ai appréhendé, je peux traverser des états extrêmement extrêmement diversifiés. Un de mes maîtres en expertise disait très simplement, hein, c'était un homme simple, c'était un grand clinicien. Il disait, je ne m'arrête pas tant que je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas le sentiment d'avoir accumulé suffisamment de matériel et d'expérience pour faire une expertise qui peut-être sera acceptable. Pour ce qui me concerne, je prends énormément de notes. Je note tout. Je note ses silences, quand il se racle la gorge, je note tout. Parce que quand je vais m'y replonger, parfois 4-5 mois plus tard, parce qu'il y aura d'autres opérations d'expertise qui font que j'ai pas pu rédiger, tout me reviendra à l'esprit, presque les odeurs. Donc vous voyez, donc l'atmosphère de... Bon. Et quand vient le temps de la rédaction, alors... Il se peut que je l'ai vu une deuxième fois ou pas, c'est pas obligatoire. Je veux dire, si dans une affaire très importante, j'ai pu voir le sujet 3-4 heures, ça me suffit, généralement. Moi, personnellement, je reprends toutes mes notes avec un feutre rouge. Alors, bien entendu, les situations se ressemblent, et puis toutes les expertises ne sont pas des expertises très complexes ou très importantes. Bon, et donc, néanmoins... quand on a un défi, ça j'aime bien avoir un défi, c'est un défi toujours recommencé. On ne sait pas si on va y arriver. Et c'est d'autant plus vrai que l'immense majorité de ces sujets sont très pauvres psychiquement. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Il m'a dit tellement peu de choses, est-ce que je vais pouvoir en remplir 20, 30 ou 40 pages? Et puis, bon, voilà, c'est là que le miracle de l'élaboration psychique, qui au fond, c'est ça, qu'est-ce qui reste d'une analyse? C'est ça, c'est de penser que l'élaboration psychique, c'est toujours mieux que le traumatisme ou que le silence, hein, ou que de laisser en jachère des expériences malheureuses. Et puis voilà, ça se met en route, et puis avec plus ou moins de bonheur.
Merci Daniel Zaguri, à demain.
À demain.
Et demain, la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Daniel Zaguri. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.